Et comme chaque année, on fait le point sur le tennis canadien, l'année du tennis canadien, avec Stéphanie Miles. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Plutôt une belle saison pour le tennis canadien. Milos Raonic, il entame cet Australian Open numéro 3. Qui l'a cru?
Oui, je dirais que c'était pas nécessairement une bonne saison pour le tennis canadien, mais c'était une bonne saison pour Raonic. C'est vraiment une drôle de chose, parce que quand je regarde en arrière et je pense à sa saison, je me souviens de la blessure ici en Australie l'an dernier et le manque de temps, un 6 semaines d'absence. Il revient à Indian Wells. Je me souviens de la défaite à Roland-Garros qui était vraiment ordinaire contre Ramos Vignola. Je me souviens du deuxième tour à US Open où il a perdu contre Ryan Harrison. Et il avait toutes sortes de blessures réelles et imaginées, je sais pas trop quoi. Et il a manqué la Coupe Davis. Je me souviens de toutes ces choses-là. Et puis finalement, à la fin de la saison, quelques grands résultats. C'est sûr, la finale de Wimbledon, il est numéro 3. Et puis, pour rien lui enlever, c'est sûr qu'il y avait d'autres éléments qu'il fallait arriver pour qu'il se rende au numéro 3. Et je dirais que la baisse de Nadal et de Federer, c'est sûr, c'est ces deux éléments qui ont contribué parce que il a eu une saison avec quelques très gros grands hauts. Il n'a pas beaucoup joué. Finalement, il y en a juste deux qui sont meilleurs que lui. J'en reviens pas, c'est presque incroyable.
Est-ce que ça veut dire que mentalement, il va devoir gérer ça à l'aube d'une nouvelle saison? Parce qu'il a des points à défendre, mais il a aussi pas mal de points à gagner ailleurs. Donc il a un bon coup à jouer quand même sur cette saison complète.
Exactement. Je pense que l'avantage qu'il aura, c'est que c'est sûr qu'il a des gros points comme ici. Une demi-finale, c'est quand même grand. Et puis, il avait gagné Brisbane juste avant et il a perdu un quart de finale. Mais s'il perd un tour ou deux avant, c'est pas la fin du monde parce que quand même, il y a des gros tournois auxquels il peut participer pour ramasser les points entre-temps. Et c'est sûr que durant la saison de terre battue, il peut ramasser des points-là. Et puis, au US Open encore. Alors, je pense que la pression de défendre le numéro 3 est pas si énorme que ça. C'est probablement pas la façon qu'il aurait choisi, mais finalement, ça va peut-être bien tourner pour lui.
Maintenant, on va parler de Popipsil. Il en est où?
Excellente question. C'est un joueur, c'est un émotif. Et puis, j'ai aucune idée, honnêtement, exactement ce qui s'est passé dans les qualifications contre Ignatic. Il était même le premier set qu'il a gagné. Les pieds bougeaient pas, il n'y avait pas beaucoup d'esprit. Et puis, ça faisait quand même 3 ans et demi, je pense, qu'il a joué dans les qualifications. Mais c'était même pas ça. C'était son niveau de combativité n'était vraiment pas là. Puis ça m'a surpris parce que son entre-saison était très bonne. Il l'a fait en Californie au lieu d'en Floride, ce qui est mieux pour lui parce que la température est moins humide. Il peut s'entraîner plus fort parce qu'il y a beaucoup de misère avec l'humidité. Puis c'est pas qu'il va devenir un spécialiste de double. Là. Il est pas rendu là, il a seulement 26 ans. Et c'est sûr qu'il a des faiblesses dans son jeu, peut-être la vitesse. Il est pas rapide. Sa défensive est pas excellente et dans le jeu de 2017, il en faut. Mais quand même, c'est un joueur de top 50 et à 140 au monde, 137 au monde, c'est vraiment pas lui. Mais c'est vraiment dans sa tête et ça l'a toujours été. Finalement, il va falloir qu'il prenne les choses en main assez rapidement parce que s'il se retrouve 200 au monde, ben là, c'est vraiment moins drôle.
D'accord, on va parler du cas Eugénie Bouchard maintenant. Je le dis d'une façon très sympa. Hein. Elle en est où, Eugénie? Elle a eu une saison un peu compliquée l'année dernière. J'allais presque dire encore une. Mais est-ce qu'elle peut vraiment rebondir ou elle en est où justement, Eugénie? C'est un peu compliqué à la lire.
C'est très, très compliqué, son affaire. Alors, c'est normal que le monde a de la difficulté de la lire, surtout ceux qui voient pas ce qui se passe entre les branches et dans les coulisses, comme je vois, là. Mais elle m'a dit à Noël, je l'ai vu juste avant Noël, elle m'a dit qu'elle avait trop joué, elle avait trop enchaîné trop de tournois durant l'été, même si elle perdait tôt. C'est quand même, tu te déplaces, tu t'entraînes, tu joues le tournoi, tu t'énerves, tu te déplaces, tu t'entraînes. Elle a beaucoup joué. Elle était vraiment dans le burn-out. Alors, elle arrive à Québec, à la maison, en mi-septembre, et c'était vraiment pas trop beau sur le terrain. Après ça, elle a pris beaucoup de temps perso. Elle a voyagé un peu partout. Je pense qu'elle a joué une exhibition en Turquie. Elle a vu ses cousins à Londres. Elle est allée voir son copain à Chicago. Elle est allée à Las Vegas. Elle a fait le tour. Elle a un petit peu elle a vidé la tête de ses anciennes idées. Puis elle a refait le plein un peu, mais ça a écourté son entraînement pour le début de la saison. Alors elle s'est dit, je suis pas vraiment prête, mais je vais venir en Australie, j'aime ça, adviendra que pourra. Alors là, le premier premier tournoi ordinaire. Et là, tout à coup, elle arrive à Sydney et ça clique. Et elle frappait bien la balle. C'était pas une question qu'elle frappait bien, qu'elle se battait pas, mais vraiment, il fallait vraiment quelques victoires pour au moins créer un peu de confiance. Mais quand même, 3 matchs de suite, ça faisait quand même un an presque qu'elle l'avait pas fait. Et puis, quand tu regardes ce qui se passe avec les femmes ces jours-ci, là, il y en a pas une qui peut jouer 2 semaines de suite au même niveau. Alors, quand tu regardes que Konta est 10 au monde et elle l'a battue à Wimbledon l'an passé, elle est pleinement capable. Si, je dis pas que c'est une joueuse de top 10, mais je dis que quand tu surveilles ce qui se passe, il y a aucune raison qu'elle peut pas revenir à un meilleur niveau qu'elle est. Et je pense que la semaine qu'elle a cette saison, ça va beaucoup l'aider ici en Australie. Sauf que elle est pas semée. Alors, elle pourrait avoir une Serena ou n'importe qui en première ronde. Et puis ça, elle a besoin d'avoir un petit peu de chance.
Ouais, absolument. Et juste une dernière question. Quand on voit justement quelqu'un comme Angelique Kerber qui a du mal à relancer sa saison, est-ce que pour quelqu'un comme Bouchard, justement, elle peut se dire il y a des opportunités à prendre?
Ah, c'est sûr que c'est ouvert. Quand tu as un numéro un au monde qui est Angelique Kerber, qui a, sans rien lui enlever, elle a des très, très belles qualités, mais mon service est meilleur que la sienne. Et puis je suis bonne joueuse professionnelle et j'ai quelques années de plus qu'elle. C'est ridicule. Ça veut dire qu'elle doit travailler tellement fort, mentalement et physiquement pour gagner. Mais c'est pas une numéro un, c'est pas une Serena. Et puis c'était pareil avec Muguruza, c'est pareil avec Radwanska, mais elle a changé de raquette maintenant, elle va avoir une période d'adaptation qui va être assez sévère. Toutes ces filles-là, Pliskova, c'est difficile de savoir ce qu'elle va faire, mais c'est toutes les filles qui jouent une bonne semaine, une mauvaise semaine, ils se remettent, et puis il y a vraiment pas de régularité, comme on voit un petit peu chez les hommes. On peut compter sur certains joueurs qui vont vraiment à chaque semaine amener le stock, comme on dit au Québec. Alors, il y a des chances, il y a des ouvertures, il y a des cracks, et puis c'est pas juste Bouchard, mais beaucoup d'autres joueuses qui vont pouvoir s'entrefiler là-dedans. Je suis convaincue que cette année, ça va être encore un petit peu bouleversant du côté des femmes.
En tout cas, merci. C'est sympa de vous voir amener le stock, comme vous avez dit, tous les ans.
Le bon stock.
Merci.
OK.